Récemment, nous nous sommes rendus compte que nous avions de gros problèmes de dépendance. Nous avons perdu des amis, engraissé démesurément, essayé toutes les saveurs de chips inimaginables et déformé notre posture à jamais. Et oui, nous souffrons probablement d'une addiction maladive au petit écran. Pour contrer notre addiction, notre psychologue nous recommande de ne pas regarder la télé pendant au moins une heure par semaine.
Donc on enregistre votre guide télévisuel! Les Exaltés du Divan, épisode 22. Bonjour, bienvenue aux Exaltés du Divan. Je suis en compagnie
Erika.
Et je suis
Simon.
Et nous sommes des maniaques de télé. Alors pendant les prochaines 30 minutes, on va vous parler de télé, de films, de tout ce qu'on regarde sur un écran.
Ouais, donc cette semaine, j'ai une petite parenthèse d'hebdo. Ensuite, on va faire un voyage-voyage.
Voyage-voyage.
Et je vais vous parler de iZombie saison 3 et 4. Et toi, Simon, tu vas nous parler de Queer Eye.
Queer Eye, ben oui, j'ai regardé ça.
Puis, à la fin, on va vous parler de Glow.
Glorious Ladies of Wrestling, saison 2.
Oui! Donc,
Hebdo, ouais, là, c'est l'été, ça paraît. Hein? Tout est arrêté, tout est mort, il n'y a plus aucune série Hebdo, sauf toi, qui continue à regarder des séries Hebdo.
Mais là, je pense qu'elle est finie, mais il me reste deux épisodes à écouter.
OK.
Fait que c'est comme un semi-Hebdo, mais bon.
Semi-Hebdo.
Pas TV Hebdo, semi-Hebdo. Bonne semaine. C'est Otaku Nikoiwa Musukashi, Love is Hard for Otaku. C'est sur Amazon Prime. Et donc...
Amazon Prime!
Je vous en avais parlé un peu. C'est des geeks, nerds, peu importe, des otaku en fait, qui sont sur un milieu de travail, ce qui fait différent de tout ce qu'on peut voir habituellement, les school life pis tout ça. C'est des adultes. Et donc...
Ils font du sexe!
Ben, on les voit pas faire, là, mais on sait que ça arrive, tu sais. Okay. C'est pas trop tabou là-dessus. Et en fait, il y a un nouveau couple... c'est l'histoire de deux couples, là, mais dans le fond, il y a un couple qui est récent, puis il y a un couple qui ne l'est pas. Et donc, c'est Hirotaka, qui est le gars, et Narumi. Et en fait, j'ai une petite citation, pas une citation, mais un petit moment que j'ai trouvé cocasse. Et en fait, ils décident d'avoir une date au parc d'attractions, mais ils veulent agir comme des gens ordinaires. T'sais, comme ils veulent agir comme des moldus, si on veut. Là. Et donc, au lieu d'avoir un pot d'argent, t'sais, quand tu sacs, puis il faut que tu mettes 25 cents, ben eux autres, c'est quand tu vas parler de trucs otaku, il faut que tu payes. T'sais.
Donc, quand t'es trop geek, tu payes.
C'est ça.
La genre à geek.
Exact, la genre à geek. Donc, et là, en fait, à un certain moment, le cellulaire de Hirotaka, il vibre, puis là, il sort en disant « Ah, il y a un Pokémon! » Puis là, Narumi, elle dit « Ah, il faut que tu payes! » Puis là, il dit « Ben non, mais tu sais, Pokémon Go, c'est mainstream! » Puis là, elle dit « Non, il y a juste les geeks qui jouent encore à Pokémon Go, et c'est tellement vrai! »
Malheureusement, c'est vrai.
C'est tellement vrai. Donc, petit clin d'œil.
Mais là, c'est Fantasia qui commence. On va-tu rejouer à Pokémon Go? On va-tu s'y remettre ou non?
C'est vrai, on jouait tout le temps à Pokémon Go.
On jouait tout le temps, c'était le fun. On allait marcher après le festival, on allait se promener. Il y avait 300 personnes au parc.
Quel
parc?
Atwater.
Au métro Atwater.
Ouais, mais ils ont enlevé le truc d'Atwater.
Ouais, OK. Ça créait trop d'accidents et des meurtres. Mais oui, c'est vrai que je suis les geeks qui jouent encore à ça.
Ouais, puis il y avait l'église scientologique là, qui tenait des collations.
Ouais, puis free Wi-Fi, free power.
Ouais, c'est ça. La lumière de Dieu. donc, c'est ça. Je vous recommande vraiment cette série-là parce que c'est différent. Puis, tu sais, c'est aussi... On s'entend maintenant que les geeks, il y a une certaine culture pop, tu sais, reliée à ça. Là, on le voit, mettons, justement, avec le Comic-Con qui
vient de toute la culture pop est reliée aux geeks, maintenant.
Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est cool parce que les personnages, ils ont à peu près notre âge, tu sais, fin vingtaine, début trentaine. Et...
Désolé pour les vieux qui nous écoutent.
Non, écoutez-nous quand même. Génération Z, OK? Puis, tu sais, ils ont grandi avec les milléniaux, là, comme vous voulez. Ils ont grandi, tu sais, avec, tu sais, Super Mario 3, ces trucs-là, tu sais, c'est le genre de référence, tu sais, Final Fantasy dans les débuts, puis en fait, ce qui est cool, c'est que chacun des personnages a pas le même, les mêmes intérêts.
Le même fétichisme geek.
Exact. Comme la fille, c'est une cosplayer full intense. Un autre gars, c'est un gamer vraiment de tous les jeux. L'autre fille, elle capote sur le yaoi puis sur les dating games. Puis l'autre gars, en fait, c'est un gars qui capote sur les trucs cute, là, tu sais, les moe, genre, tu sais, toutes les séries qu'il y a sur Crunchyroll, là, dans le fond, là, où c'est toutes des filles cute, là. Fait que, dans le fond, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, ils sont sur un milieu de travail. C'est plus vieux un peu, tu sais. Mais, en même temps, c'est drôle.
Love is hard for otaku.
Exact.
Voyage, voyage. Na, 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 na. Un jour, on va avoir le vrai jingle. Mais pour l'instant, on va vous parler d'un film qu'on a regardé sur Netflix. Thor Ragnarok.
Oui!
Bon, alors Voyage, Voyage, parce que c'est pas le film le plus récent, sorti en 2017, non. C'est le dernier de la trilogie de Thor, donc c'est le troisième. Le concept, en gros, c'est quoi? Bon, on le sait, dans le 2, Loki a usurpé le trône d'Odin, et bah, c'est ça. En fait, c'est pas mal juste ce qu'il y a à retenir, si je me souviens bien du 2. Et là, dans le
fond...
Non, je l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il y avait juste ça à retenir. Donc, le 2, il paraît qu'il était aussi mauvais que le premier.
Ouais, parce que le premier était pas bon.
Non, le premier était vraiment pas très bon. Le 2, il paraît qu'il était pas meilleur. Mais le troisième était, ma foi, assez bon, en fait. Hein?
Ouais. Non, il était bon, mettons, genre 6.5.
Ouais, c'est ça. C'était pas un chef-d'œuvre, bien entendu. Là, c'était un film de super-héros américain... de Marvel, hein, donc est-ce que ça peut vraiment être un chef-d'œuvre? Oui, il y en a qui sont très bons, désolé. Mais c'était correct, c'était quand même bon, tu sais, j'étais dedans tout le long, à aucun moment...
En tout cas, hein, quand on parle de DC, c'est un autre discours, mais...
Ça dépend, on parlera DC, je peux les trasher longtemps aussi, là,
oh, ouais,
sûrement
plus. Mais moins.
Non, DC ont en fait les pires films des 10 dernières années, en fait, le pire film, Batman vs Superman, réellement, le pire film... Non, je pars pas là-dessus. Là, je tends beau fusil, là.
Ouais, c'est ça. Fait que...
OK, donc, ouais, ça, c'était un échec. Thor Ragnarok, en fait, c'était quand même assez bon.
Ouais,
moi, tout le long,
ouais.
Je l'ai regardé, puis j'étais dedans, puis tout ça. Donc, c'est Thor qui se fait, en fait, bannir du Valhalla.
Ouais.
Par sa sœur, en fait.
Non, de leur planète. Le Valhalla, c'est quand ils meurent.
Ah, ben c'est quoi leur planète, d'abord?
C'est ils s'appellent les Artargains, quelque chose de même, là.
Ah, Asgard.
Asgard. Les Asgardiens.
Asgard. OK, donc il se fait bannir de Asgard par sa sœur, qui, en fait, on apprend qu'il y a une sœur, hein, qui est la déesse de la mort. Donc, elle bannit Thor et Loki.
Ouais.
Et il se retrouve sur une planète vraiment fuckée, une genre de planète dépotoir qui est tenue par un être mégalomaniaque qui organise des...
Et qui joue dans Jurassic Park.
Oui. C'est quoi déjà le nom de cet acteur-là? C'est un acteur ultra connu, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Jeff Goldblum. Donc, on sait qu'il est très, très cool et reconnu un peu pour ses rôles semi-vilains. Là-dedans, il joue, c'est ça, un être mégalomaniaque qui organise des tournois de champions pour divertir son peuple.
Ouais.
Et là, Thor, dans le fond, se retrouve à se combattre dans l'arène parce qu'il veut retourner chez lui. Et contre qui il se retrouve pas, en fait? Contre le gros géant vert. Hulk! Alors, Hulk, qui est sur cette planète-là, devenu une espèce de rockstar, en fait, parce qu'il ne perd aucun combat, gagne tout. Donc, c'est vraiment rendu la vedette montante de la planète, le protégé du président, si on veut, de cette planète-là.
Et oui, il était disparu depuis tant de films et on le revoit enfin.
Exactement, donc c'était quand même une grosse surprise pour nous, non, là, parce que c'est sorti il y a quand même un bout puis on savait déjà qu'il était dedans. Pour toi, Erika, tu savais-tu qu'il était dedans? Ou...
Non!
Ouais, c'est ça. Donc, ça t'a-tu fait une surprise?
Ouais!
Donc, c'est quand même le 17e film de l'univers Marvel. Là, on est rendu, comme vous savez, dans la phase 3, qui va se terminer bientôt et qui est supposément la dernière phase des films de Marvel. Après ça, ils vont faire un... comme Marvel le font si bien, un reboot,
ouais,
et vont
ça.
Recommencer l'histoire. J'ai bien hâte de voir comment ils vont s'y prendre. Est-ce que ça va être un soft reboot, un hard reboot? C'est à suivre. Thor Ragnarok.
Oui. Donc, ça faisait pas longtemps qu'il était disponible sur Netflix, hein,
c'est non, il venait d'être sorti sur Netflix. Nous, on n'était pas allé le voir, bien entendu. On est un peu en retard dans l'univers Marvel.
Mais c'est parce qu'on s'était fait décevoir, tu sais.
On s'était fait un peu décevoir par Thor 1, donc on n'était pas allé voir le 2. Mais on avait entendu dire que le 3 était très bon, donc on s'est laissé prendre. Moi, j'avais regardé Avenger, l'ère d'Ultron dans l'avion, sur un tout petit écran avec des écouteurs terribles.
Avec Paul Bettany.
Ouais, avec Paul Bettany, effectivement. J'avais aussi regardé Doctor Strange dans le même avion, dans le même trajet. Donc, on n'a pas naissant les films de Marvel en haute estime, mais bon, bravo.
Ouais, nice. OK!
Donc, Erika, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine?
iZombie!
Donc, tu nous avais déjà parlé de la saison 1 et 2 il y a, je crois, 2 ou 3 semaines.
Ouais.
Là, dans le fond, t'as regardé la 3 puis la 4 et c'est la fin de la saison? Ou c'est la fin de la série?
C'est ce qui est le plus actuel en ce moment.
OK.
Mais je pense que ça va continuer, en fait. Mais la saison 4, elle venait juste de sortir quand j'ai commencé à l'écouter.
OK.
Donc oui, petit récapitulatif, iZombie, le gros truc du film un peu, ben pas du film, c'est une série télé, c'est que quand les zombies mangent des cerveaux humains pour s'alimenter, en fait, ils prennent des traits de leur personnalité et certaines de leur vision. Et donc, le personnage principal, qui est une fille qui travaille à la morgue, elle a des visions un peu de comment ils sont morts et décide de résoudre leur meurtre. Donc, la saison 2, la première et la 2 étaient essentiellement basées là-dessus, sur le fait qu'ils travaillaient à trouver un vaccin ou un médicament ou quelque chose pour contrer l'infection qui se propageait. Et on voyait aussi les dessous de l'industrie, de la viande humaine, si on peut dire ça comme ça. La 3 et la 4, en fait, ça descendait, comme dans mon estime, là. Graduellement, mais sûrement. Donc, c'est pas... En fait, je crois que j'abandonne la série.
Ah ouais, c'est terminé.
Ouais, c'est terminé pour moi, même s'il va y avoir une autre saison. Parce qu'en fait, ils ont tellement mis l'accent sur le fait que quand tu manges d'un cerveau, t'adoptes la personnalité, que c'est rendu tellement intense. Là, des fois, tu sais plus... Il n'y a pas tant de fil conducteur. Puis le fil conducteur qu'il y a, ben, il n'est pas vraiment bon. T'sais. Ils ont comme recyclé un personnage en genre de prêtre. Puis là, la ville s'est rendue une ville zombie où tout le monde...
Ils ont été mis en quarantaine.
Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est comme... Je sais pas, là, ils s'en vont où? Ils travaillent plus ou moins sur un vaccin... sont en quarantaine, là, tout le monde sait maintenant qu'il y a des zombies, tu sais pas où ça va, là, c'est comme, t'as des zombies qui sont comme, oui, on doit mettre, genre, les humains en élevage parce que c'est juste du bétail, fait qu'en tout cas, c'était une déception grandissante.
Ouais, mais ça me semble, qu'est-ce que tu décris là, le classique de tellement de séries qui ont un très bon début, puis tu fais ça 2 saisons, puis ça va donner une très bonne série, mais là, les réseaux, les producteurs étirent la sauce et ça en vient souvent peu crédible, même si, bon, on s'entend qu'une fille qui devient zombie puis qui mange du cerveau, qui prend leur personnalité, c'est déjà plus ou moins crédible dans le sens que c'est pas la réalité, mais ça prend toujours des proportions démesurées.
Ouais, mais l'affaire, c'est que vu que c'est basé sur une bande dessinée, tu sais, moi, je me disais, ils vont suivre la trame, mais tu sais, je sais pas trop à quel point ils la suivent, honnêtement. En tout cas,
Tu vas-tu commencer la BD ou...
Non, ça m'a tanné, j'étais tanné, je l'ai fini de force, j'avais plus de plaisir, c'était comme rendu un fardeau.
Ah, c'est ça, être un exalté du divan. Des fois, on est aussi les exaspérés.
Ouais,
du divan.
Exact.
De mon côté, j'ai regardé une série qui s'appelle Queer Eyes.
Oh my god!
Donc, Queer Eyes. Queer Eyes for Straight Guy. Ça, c'était le nom de la série originale qui est sortie en 2003 à la base. Donc, ça fait longtemps. Ça fait à peu près 15 ans. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2017, Netflix a... Cette série-là, je crois qu'elle a duré 3 ou 4 saisons. Là, je ne sais pas trop exactement parce que je l'ai pas... C'est pas celle-là que je vais vous parler, mais bien le remake de Netflix. Donc, Netflix a décidé de reprendre ce concept-là qui était terminé et de le refaire. Donc, ils ont déjà fait 2 saisons jusqu'à maintenant. Ils ont changé les acteurs, si on veut, c'est pas vraiment des acteurs, parce que c'est une émission de télé-réalité. Vous connaissez les émissions de télé-réalité où des gens vont refaire la maison de quelqu'un, donc vont améliorer la maison. Vous connaissez les émissions où quelqu'un va se faire un makeover puis va devenir transformé.
Son style, ses cheveux.
C'est ça, tout ça. Eh bien, cette émission-là, c'est tout ça mis ensemble. Queer Eye for Straight Guy, ça c'était le nom original de la série, dans
mais
le fond.
Mais aussi avec un coach de vie.
Avec un coach de vie. Dans le fond, c'est quoi le concept? C'est 5 gars, 5 homosexuels, dans le fond, qui vont aller rencontrer un gars qui est habituellement straight, mais dans la saison 2, ils jouent un peu là-dessus. Donc, ils vont pas juste rencontrer des gars straight, mais ils vont rencontrer principalement des gars pour les aider dans leur vie. Souvent, comment ça fonctionne, c'est que les gars, habituellement hétérosexuels, ont été nominés par quelqu'un.
Ouais.
Donc, par leur entourage. Mettons, il y en a un exemple, c'est comme il y a une fille qui date un gars, puis elle dit « Ah oui, ben tu sais, je l'aime, mais tu sais, il est tellement pas romantique, il cuisine jamais, il s'habille pas bien, son appartement, il est dégueu, tu sais, comme, tu sais, c'est pas un gars sérieux, tu sais, je voudrais aller plus loin, mais le gars, il est pas là, tu sais, c'est pas un vrai homme.
Oh. »
Donc, ces cinq homosexuels-là se pointent dans la vie de cette personne-là pour une semaine et vont littéralement transformer sa vie. En fait, ils vont revoir l'appartement ou le lieu dans lequel il habite, ils vont améliorer ça, ils vont améliorer son style vestimentaire, son style de coupe de cheveux, de barbe, son hygiène corporelle. Il y en a un qui c'est un coach de vie qui va l'aider justement à atteindre les objectifs qu'il veut, et le dernier c'est un cuisinier, donc souvent il va y apprendre à cuisiner. Dit comme ça, ça a l'air un peu superficiel, en fait, en disant on va changer ta vie en changeant ton linge,
ouais,
tu sais. Puis effectivement, j'avais des fois ce feeling là que c'est pas aussi simple que ça, mais il y a aussi tout l'autre côté de sois fier de l'image que tu dégage qu'est-ce que tu veux être,
ouais.
Et aie confiance en toi et donne-toi les atouts pour avoir confiance en toi, tu auras peut-être plus de chances de réussir et d'atteindre qu'est-ce que tu veux.
Non, c'est ça, puis tu sais, si je peux me permettre de faire une parenthèse, j'ai pas vraiment écouté la série avec toi, mais j'ai vu un épisode.
Non, puis t'étais une sceptique.
J'étais une sceptique.
T'as écouté un épisode parce que je t'ai forcé, parce que t'étais sceptique.
Ouais, puis en fait, tu sais, on avait écouté 100% Hotter, qui était vraiment terrible, et en fait, les stylistes, ils, dans cette émission-là, ils voulaient, dans 100% Hotter, ils écoutent pas qu'est-ce que la personne elle veut.
Non, ils vont prendre qu'est-ce qui est tendance.
Ouais, puis ils l'imposent sur elle, puis tu sais, alors que dans Queer Eye, c'est comme plus, ils veulent que tu l'intègres, que ça soit naturel pour toi.
Tu sais, ils vont pas t'habiller ils vont pas t'acheter une garde-robe qui fit pas avec qu'est-ce que t'as, tu sais, comme ils vont te donner un style qui fit avec toi, puis qui est pas un truc extravagant, là, tu sais, souvent ça va être des chemises avec des jeans, mais tu sais, des bonnes couleurs bien agencées, ce genre de trucs-là.
En fait, c'est plus comme raffiner quelque chose que la personne est déjà un peu est à l'aise, c'est confortable. C'est pas comme « Ah, on va t'habiller en gay comme nous avec des trucs full tight. »
Non, c'est ça. Ils vont vraiment aller chercher ce que la personne veut. Puis tu vois que chaque style qu'ils vont créer pour chaque personne est différent. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à écouter ça, en fait. Je l'avais vu plusieurs fois, puis j'étais comme « Ah, c'est quoi? » Je savais même pas c'était quoi, en fait. À la base, je pensais même pas que c'était une télé-réalité. Et en fait, j'ai capoté là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment, tu sais, cinq gars qui se pointent puis qui veulent vraiment aider quelqu'un. En plus, j'ai appris plein de recettes en regardant ça. J'ai appris des trucs pour mon style. Ça me donnait envie d'aller me faire couper les cheveux. Tu sais, comme, puis le gars qui est plus un coach de vie, tu sais, il y a vraiment des bons trucs, puis c'est vraiment comme on veut t'améliorer, on veut que tu sois mieux dans ta peau. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les gens qui se laissent aller, qui ont ces sales chez eux, qui s'habillent un peu n'importement, puis tout ça, oui, il y a des gens qui c'est leur style, mais dans, bien entendu, ça c'est une télé-réalité, donc ils vont choisir les candidats pour ça. Mais tu vois que c'est des gens qui ont comme une espèce de mal à l'intérieur, pas un mal profond, mais tu sais, des gens qui sont un peu déprimés, qui ont moins confiance en eux, qui ont comme un peu, qui se sont laissés aller, puis qui ont juste besoin d'une petite tape dans le dos pour se remettre sur la traque. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et vraiment touchant comme émission aussi.
Ouais, non, j'avoue, en tout cas, l'épisode que j'ai vu avec toi, tu sais, comme il y a vraiment de l'amitié, puis tu sais,
puis on pleurait, là, en le regardant.
Ouais, non, tu sais, les gens sont vraiment sincères, tu sais, c'est pas... Oui, OK, c'est sûr que c'est comme un peu mise en scène, drama, avec, tu sais, comme gay qu'on peut voir à la télé, là, tu sais, vraiment stéréotypé par moment, mais... pas tout le temps. T'sais, c'est pas un RuPaul's Drag Race, là, mais...
Non, c'est ça, puis tu sais, il y en a... Tu sais, c'est pas nécessairement... C'est ça, c'est pas nécessairement le classique de l'homosexuel, donc on va voir un peu plus une diversité par rapport à ça, et...
Ouais.
Tu sais, nous, ici, on se dit, bon, au Québec, c'est pas nécessairement un enjeu, tu sais, l'acceptation, ça reste que ça l'est toujours, mais quand tu penses que c'est une émission américaine, je suis content de voir aussi qu'ils mettent ça de l'avant, puis ça... Écouter ça, je me dis, ça peut aider des gens à être moins homophobes, tu sais, à la limite, là.
Ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, il y a vraiment un petit côté bromance, mais sans connotation sexuelle, vraiment, qui sont quand même capables de t'sais, parce que en fait c'est ça l'affaire, c'est que souvent quand on va se dire oh la bromance, t'sais, s'il y a des gays ben ça gâche tout parce que c'est sûr que c'est connoté sexuellement, mais dans le fond là-dedans ils réussissent à faire de la bromance sans que ça soit connoté, t'sais.
Ouais, puis ils réussissent à montrer des conversations entre hommes que la plupart des hommes n'ont pas nécessairement entre eux.
Ouais.
Et tu sais justement quand tu sais les amis gars là, tu sais oui il y en a qui le font, mais en général ils vont pas nécessairement se confier, puis tu sais se parler de choses profondes parce que ça fit pas dans le moule qu'on a été habitué, mais eux en fait ils font sortir les gens de leur coquille et ils leur font dire des choses qu'ils ont sûrement jamais dit de leur vie. Donc super intéressant, Queer Eyes, c'est pas pour tout le monde, mais je t'ai dit au moins un coup d'œil, je pense que vous allez bien aimer ça.
Donc il y a aussi notre petit bonbon. Saison 2!
Ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
Ça passait tellement vite.
Pourtant, ça n'a pas été très... En fait, on se l'est claqué littéralement en une... On se l'est claqué en deux soirées,
ben,
mais...
Hier, on a écouté 8 épisodes.
Puis aujourd'hui, on a écouté 2. Ouais. Donc, ça s'écoute comme des petits bonbons. En fait, des épisodes de 30 minutes, il y en a 10.
La durée change tout le temps. Là, par exemple, ça, des fois, le Netflix, là, je suis comme fru parce que t'as un épisode de, mettons, 40 minutes, là, après, t'as un épisode de 26 minutes, puis là, t'as un épisode de 31 minutes, là, après, t'as un épisode de 34, puis après, 20. Tu sais que c'est comme... C'est agressant.
Ouais, c'est agressant, sauf que ça montre qu'ils racontent ce qu'ils ont à raconter. Puis ils sont pas fixés dans des modèles de...
Animes de 22 minutes avec un opening de...
Ouais, exactement. Puis avec les publicités à la télé, puis le créneau, il dure ça, donc il faut que ton truc dure ça. Oui, ils sont bien, mais tu sais, tu vois, le dernier épisode dure 46 minutes, puis on sent que c'est un épisode important.
Mais celui de 26!
Ouais, celui de 26, il passe vite.
Fait qu'il y a juste 10 épisodes, malheureusement, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est eux qui aiment les années 80, vous allez être servis. Beaucoup de clins d'œil à la aux références de la télé de ces années-là, la musique évidemment, mais tu sais aussi tout le mode de vie, leur style, tout est léché là pour vrai.
Ouais. C'est plus encore que dans la saison 1, tu sais, ils vont chercher vraiment beaucoup de références, les décors sont superbes, tu sais, on voit pas beaucoup d'extérieur, mais tout le temps les vieilles voitures, comment les gens sont habillés, comment ils sont peignés.
Ah ouais, puis tu sais, mettons justement, la fille, une des personnages, elle s'en va à un truc full important, puis tu sais, on la regarde, puis on est comme, qu'est-ce qu'elle porte, tu sais, ça a juste pas d'allure, tu sais, mais tu sais, leur maquillage, puis la façon aussi que, parce que tu sais, veux, veux pas, c'est des actrices qui jouent des lutteurs, des rôles de lutteurs.
Mais là, justement, j'allais dire, là, on parle de ça comme si tout le monde connaissait ça, il y a des gens
qui... Ah, mais on en a parlé, écoutez,
il y a des gens, c'est peut-être la première fois qu'ils nous écoutent, ils ont aucune idée de quoi on parle, et tantôt, j'ai dit glamorous, ou je sais pas trop, mais c'est Gorgeous Ladies of Wrestling.
Ouais.
C'est quoi, GLOW, c'est ça? C'est une émission, dans le fond, qui parle d'un groupe de femmes qui créer une ligue de lutte, une émission télévisée de lutte dans les années 80.
Ouais.
Donc, super belle série avec Alison Brie, qu'on connaît pour plusieurs rôles importants dans Community, dans Mad Men et autres.
Ouais, exact. Et en fait, elle est très bonne là-dedans. Elle fait tellement des rôles différents, cette femme-là.
C'est une vraiment des bonnes actrices. Et j'espère que, comme tu sais, pas que les gens la dénigrent, je pense pas que les gens la dénigrent, mais j'espère que son talent va être reconnu parce que elle est excellente et... On dirait pratiquement que dans ce film-là, elle se joue elle-même à un certain point.
Tu trouvais? Ah non!
Moi, je trouvais qu'elle... Non, mais dans le sens que je la connais pas, là, Alison Brie, là. Mais, tu sais, comme une fille qui a un casting atypique, mais qui va, genre, foncer, briser les barrières, avoir des idées, être créative. Puis il paraît maintenant, en plus, qu'elle est vraiment à capote sur la lutte, là.
Ah ouais?
Tu sais, comme elle est vraiment dedans, là. Fait qu'en tout cas, j'espère juste qu'on va continuer à la voir, puis je pense bien que oui, parce qu'elle est excellente, cette actrice.
Ouais, et en fait, c'est toutes des femmes qui cherchent un emploi, puis c'est souvent... En fait, la majorité, c'est des actrices, et ils se retrouvent un peu là-dedans, malgré elles. Tu sais, c'est pas des lutteuses. Il y a peut-être deux filles qui sont comme plus...
Ouais.
Peut-être trois, limite, là, qui sont plus comme à l'aise avec pour être des lutteuses, mais... Ou qui ont un certain bagage, mais tout le reste, là, c'est vraiment des actrices. Et dans la première saison, en fait, on le voit vraiment, tu sais, ils apprennent ça un peu à la dure. Il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils deviennent des acrobates quasiment, tu sais. Et la saison 2, en fait, c'est plus comme la solidification, tu sais, de...
Là, ils ont leur émission de télé, ils ont 20 semaines, je pense. Donc là, c'est vraiment comme toute l'émission de télé au complet, comment ça va se dérouler derrière et devant, bien entendu, là.
C'est ça, tu sais, ça se raffine, leur complicité se raffine, leur personnage, leur mouvement, leur truc, ils personnalisent analysent leurs... Tu sais, en plus aussi, tu sais, il y a vraiment une symbiose puis une bonne chimie qui s'installe. Puis tu vois que... on dirait que c'est vrai, là, tu sais, j'embarque avec eux, puis je suis comme, ah, oh, je veux tellement qu'ils réussissent.
Ouais, puis comment on peut s'imaginer une ligue de lutte de femmes à la télé dans les années 80, c'est pas nécessairement l'affaire qui marche le mieux, non. Hein. Donc, ils ont beaucoup d'embûches au niveau des codes d'écoute, du budget qu'ils ont. Donc, il faut qu'ils travaillent un peu dans des conditions de merde, mais justement, c'est un groupe soudé, là, qui veulent le faire. Tu sais, dans le premier, dans la saison 1, on sentait qu'il y avait comme une rivalité entre certaines filles, mm-hmm. mais là-dedans... il y a des petites pointes, sauf que c'est un groupe uni, hein, tu sais, ils sont là l'une pour l'autre. Beaucoup moins de drames internes que dans la saison 1, beaucoup plus de drames externes, si on veut.
Tu sais, ils travaillent ensemble dans un but commun.
Par le meilleur show possible.
Exact, puis tu sais, ils se donnent à fond, tout à leur manière. Puis aussi, tu sais, l'affaire, c'est que les premiers épisodes, ils commencent vraiment avec un peu une critique, tu sais, de la société des années 80 par rapport justement à la position de la femme, puis... Tu le vois là, tout le temps dans la scénarisation, justement, là, la façon que les hommes parlent aux femmes, la façon que les femmes se parlent entre elles sur certaines choses, sur la place qu'ils pensent avoir, puis la place qu'ils aimeraient avoir, mais même la place qu'ils acceptent. Puis aussi, en fait, c'est beaucoup sur l'acceptation de comment ils se font parler, puis qu'ils acceptent de se faire parler comme ça. T'sais. Les premiers épisodes, là, des fois, on se regardait, puis c'était comme, ben voyons, là, ça n'a pas d'allure. Mais c'est vrai, ils se faisaient parler de même tout le temps, puis ils sont comme... Ah, ok, ben, tu sais, on va essayer de désamorcer la situation. Puis, tu sais, ils prennent vraiment sur elle, genre, tu sais, sur des comportements vraiment irrespectueux, tu sais. Puis, je me dis, c'est tellement pas si loin. Puis, tu sais, quand justement, je fais toujours, je vais souvent parler, mettons, de mes collègues de travail parce qu'ils sont plus vieilles que moi, fait qu'il y a vraiment comme une différence générationnelle. Puis, tu sais, ils sont encore un peu comme ça. Puis, tu sais, des fois, je me dis, crème, c'est pas avec eux autres que le féminisme va grandir. Puis, tu sais, je me dis, c'est clair, là, tu sais, quand t'as grandi comme ça, ou prends ta place, puis, tu sais, si tu fais mal parler, ben, tu sais, tu l'encaisses avec le sourire, ben, tu sais, ça, c'est des générations de gens, là, qui sont comme ça, tu sais.
Ouais, puis, en même temps, tu dis ça, sauf que Glow, c'est pas nécessairement la série qui va dénoncer ça.
Non.
Tu sais, ils vont l'exposer, mais c'est pas nécessairement... des femmes qui jouent les féministes, dans le sens que, pas nécessairement que c'est bon ou mauvais, mais c'est juste que c'est pas une série qui, elle expose cette réalité-là.
Non, c'est ça.
Elle dénonce par certains moments, il y a quelques scènes, quelques épisodes qui sont plus centrés autour de ça, mais ça reste que c'est des femmes de l'époque dans laquelle la série se passe.
Exact, puis ils ont vraiment gardé ce côté-là d'époque, tu sais, comme c'est sans... Tu sais, il va y avoir quelques petites références, tu sais, ou du fait qu'ils veulent, ils ont de l'ambition, tu sais, ils veulent prendre leur place, mais, tu sais, c'est pas des gens, c'est des gens qui sont en mode survie, ils veulent avoir une carrière, puis, tu sais, sont prêts à faire certaines choses, tu sais, même si c'est de pas défendre certains idéaux, tu sais, pour avoir leur travail. Puis, tu sais, on s'entend aussi que dans Glow, tu sais, il y a vraiment aussi une genre d'hypersexualisation, tu sais, de ces lutteuses-là, tu sais, puis ils font... Tu sais, ils se l'approprient vraiment aussi, tu sais. Puis maintenant, tu te dis, ah, on ferait pas ça. Mais en même temps, à l'époque, c'était comme ça aussi. Puis eux, tu sais, il y a aussi dans l'appropriation de ça, il y a une façon de le contrôler aussi à un certain point, tu sais. Mais j'ai trouvé que c'était bien représentatif des personnalités que les gens avaient à cette époque-là, tu sais. C'est pas trop militant, mais c'est pas non plus sans critique.
Non, c'est ça, c'est bien dosé d'une certaine façon, absolument. Moi, je trouve aussi que c'est une série qui est extrêmement originale au niveau de sa réalisation. En fait, tu sais, on parlait justement, les épisodes, ils n'ont pas tous la même durée.
Ouais.
Mais il y a des sauts dans le temps, dans l'histoire, qui passent un peu du coq à l'âne, mais sans nécessairement que ça paraisse. C'est pas tout qui est expliqué dans cette série-là. Non. Cette série-là prend pas les gens pour des cons, dans le sens que ils vont sauter des affaires pis t'es comme, ah, c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, t'as pas besoin de le voir nécessairement visuellement. Et ça permet à la série de progresser vraiment rapidement. Mm-hmm. Tu sais, 30 épisodes, 10 épisodes de 30 minutes, il se passe beaucoup de choses, en fait. Là.
Ouais, c'est 20 semaines, tu sais.
C'est ça, exactement. Ça va très rapidement. D'ailleurs, il y a un épisode que j'ai vraiment aimé. Je crois que c'est l'épisode 8. Mais c'est juste un comme si on regardait Glow à la télé.
Oui, oui, ça c'était vraiment
c'est,
bon.
C'est pas la série vraiment, mais c'est le show, l'émission qui est à la télé, que tu regardes au complet, puis l'épisode c'est que ça, en fait. Ouais. Y a rien d'autre. C'est juste l'épisode qui diffuse à la télé.
Ouais.
Et c'est à un moment où un peu, comme ils pensent qu'ils vont se faire annuler leur émission, puis ça, puis ils disent « Ok, là, on se laisse aller, on fait ce qu'on veut avec cet épisode-là. » Donc c'est un peu du délire, mais c'est super drôle, puis c'est bien fait, là.
C'est ça, on est comme un spectateur mis en abîme, tu sais, à travers la télé, tu sais. Puis aussi, ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, ils jouent vraiment avec les trucs des années 80, là, tu sais, les lasers, les néons, tous ces trucs-là, les décors, mais aussi, tu sais, comme avec la technologie, tu sais, la façon qu'ils tiennent tout le temps leurs écouteurs à cause qu'ils ont tellement les cheveux crêpés, fait que, tu sais, ils peuvent pas défaire leur peignure, puis, tu sais, ils sont tout le temps comme, ah, oh, ben, tu sais, eux, ils ont des moniteurs, les caméras, puis, tu sais, comme, tu vois, ils capotent un petit peu sur la technologie, puis, tu sais, t'as les effets aussi, des petits fade-in, fade-out à la télé, tu sais, comme...
Ouais, non, ouais. C'est bien drôle, c'était vraiment bon. La saison 1 était assez humoristique, mais celle-là, elle a surtout... Tu sais, il y a toujours le côté humoristique, mais plus ça va... La fin m'a vraiment laissé dubitatif, si je peux dire. Mm-hmm. Pas que j'ai pas aimé, mais j'étais confus par rapport à est-ce que c'est une fin joyeuse, est-ce que c'est une fin triste. C'est pas clair, en fait. C'est très ambigu.
C'est statu quo.
Mais statu quo, mais avec des très gros changements. Sans vouloir nécessairement divulgâcher la fin, il se passe des choses à la fin qui sont majeures dans l'histoire. On sait même pas s'il va y avoir une saison 2. Tu me disais que t'avais regardé un peu sur Internet.
Ben, bon. Dans le fond, il disait que la saison 3 était pas confirmée à 100%, mais que les actrices avaient fait des teases par rapport à ça.
OK, OK.
Mais, tu sais, moi, je dis pour vrai, Netflix, là, je veux dire, il avait annoncé, tu sais, mettons, je reprends tout le temps le cas de Sense8 parce que j'étais tellement offusquée. Tu sais, il avait annoncé qu'il allait avoir une troisième saison, puis finalement, ils ont choqué en plein milieu, puis ils ont décidé de faire un film. Fait que, tu sais, comme, je prends ça avec des pincettes. Fait que c'est pas confirmé à 100%, puis qu'il y a des teases, mais tout porte à croire la façon que ça se termine, qu'il pourrait avoir une saison 3.
Mais ça pourrait se finir comme ça, comme il pourrait avoir une saison 3, mais j'ai été très surpris par la fin, parce que c'est très ambigu, en fait.
Mais c'est aigre-doux, je te dirais.
Ouais, aigre-doux, c'est le bon terme. T'es content, mais en même temps, un peu inquiet.
Ouais, mais parce
à la manière
que
des personnages, en fait. Ils sont contents, mais ils s'en vont vers l'inconnu. Mm-hmm. Donc, on veut pas trop vous en dire plus, parce qu'on veut que vous le regardiez, que vous appréciez toute la... comment c'est bâti, comment ils en viennent à ça. Et en plus, c'est drôle, parce que c'est aussi une série qui te dit ton destin peut être n'importe où, là.
Ouais.
C'est comme, tu peux inviter 200 personnes te voir en spectacle, puis dans le fond, il va rien se passer, mais finalement, le concierge connaît quelqu'un qui va... C'est pas ça qui arrive, mais c'est comme...
Ouais.
C'est inattendu, là.
Mais tu sais, en fait, toutes les actrices, ils ont fini là un peu, tu sais, de cette façon-là.
Ouais, un chemin bizarre qui les amène de à chaque pas à un endroit un peu plus bizarre pour finalement arriver là.
Tu sais, parce que c'est toutes la majorité, c'est des filles, tu sais, qui ont fait du théâtre, puis d'ici, puis des cours.
Des filles qui veulent être actrices, tu sais, qui ont essayé, tu sais, c'est à LA, là, que ça se passe. Fait que c'est comme le paradis des actrices déchues, là, ou de celles qui ont pas percé.
Exact.
Il doit en avoir des milliers comme elles, là.
Puis là, tu sais, dans le fond, tu te ramasses, toi, qui as fait, tu sais, des trucs de lecture, de poésie, puis de toutes sortes d'affaires comme lutter contre une fauve qui se bouffe des cuisses de chèvre.
C'est ça, c'est vraiment... Mais ils prennent bien l'esprit de la lutte aussi, puis la lutte, c'est pas supposé être trop sérieux.
Mm-hmm.
Puis je trouve qu'ils le font bien là-dedans. C'est drôle, c'est leur show de lutte, j'irais le voir, là, tu sais, j'irais voir ça, là. Donc, ça remène aussi la lutte comme étant une forme de divertissement valable.
Ouais, mais en plus, il y a vraiment un regain là, avec la lutte, tu sais, depuis quelques temps. Là.
Absolument. Pendant des années, la lutte, c'était une affaire de petit enfant et de sale nerd fini, en fait. Là, on prend un nouvel essor. D'ailleurs, au Québec, on est chanceux. La lutte, on a probablement un des deux lutteurs qui sont dans la grosse ligue, la WWE, et qui font très bien là-bas. Mais le circuit indépendant de la lutte au Québec est florissant, grandissant. Si vous avez la chance d'aller voir ça, je vous encourage fortement. Vous allez avoir une belle soirée de plaisir. Et je trouve que cette série-là, ça nous remet un peu dans le bain de « Ah oui, c'est le fun d'aller voir de la lutte, de participer un peu au spectacle en tant que spectateur. » Donc oui, Glow, saison 2, meilleur que la saison 1. Très curieux de voir
la suite
si suite il y aura, mais très curieux de voir où ça va nous mener tout ça.
Oui, donc c'était tout pour cette semaine.
Salut tout le monde!
Au revoir!